La deuxième intervention qui sera faite par Daniel Abocassini, qui est une collègue de l'Université de Vancouver, qui a enseigné au département des études romanes et qui est une spécialiste de Dante.
Alors, merci Pierre, merci aux organisateurs de cette invitation. Me rendre heureuse d'être ici avec vous. C'est bon? C'est
non?
Non,
ah voilà.
Ah voilà. Ok. Et voilà. Alors aujourd'hui, ma communication pour la journée de la mystique sera image de bien véritable, vision mystique et transmutation alchimique de Dante à Dürer. Les termes mysticisme et mystère participent de la même racine linguistique grecque, mu, et par là d'une même aspiration archétypale, le désir de cerner la réalité dans sa dimension vraie, qui en tant que telle reste cachée et silencieuse, fermée au sens externe, mais mu cota, et partant, ineffable. Il s'agit là d'une expérience directe de la réalité qui se produit à l'unisson dans le corps et l'esprit, sans engager la pensée discursive et ses projections fantasmatiques. C'est bien ce court-circuitage de la logique argumentative qui amènera Titus Burckhardt à affirmer que l'essence du mysticisme est lue de toute interprétation purement rationnelle et, ajoutait-il, il en est de même de l'alchimie. Une telle participation visionnaire à la réalité suppose un revirement des dynamiques psychiques, une conversion du regard de l'extérieur vers l'intérieur, du versant visible et articulé des choses et de soi-même vers celui caché et synthétique. Et la collègue parlait tout à l'heure de Bakhtin, et on est dans le même Esaïr. Excusez la prononciation horrible. Tout aussi mystérieuse que la quadrature du cercle, quasiment indicible, l'askésis du moi acheminé sur la longissima via qui conduit au recouvrement de l'homme au tortus se reflète en effet à travers tout le continent eurasiatique dans les procédés de grande œuvre grâce auxquels l'esprit apprend à se faire tour à tour creuser, vas bene clausum, miroir, fleur d'or ou bien de lotus, un lieu non lieu amoureusement apprêté pour accueillir le mystère de cette double conjonction de l'esprit corporalisé et de la corporéité spiritualisée, qui seule permet à la conscience de franchir les limites d'une perception conventionnelle de la réalité. L'entrée dans cet au-delà de la perception ordinaire permet à son tour la réalisation de cette vista nova, ou vision nouvelle, comme le dit Dante, qui est porteuse de vita nova, ou vie nouvelle, illumination. À proprement parler, il s'agit là d'une déifaction ou horrifaction de l'existence. Les enseignements initiatiques visant à soutenir l'adepte dans son parcours pour réaliser la libération en vie peuvent être très différents, mais ce qui les réunit est la conscience du fait que l'être se réalise au moyen de la connaissance et qu'il ne peut se réaliser que de cette manière. Bien entendu, tout dépend de ce que l'on entend par connaissance. Mais à l'époque où l'Europe était envahie par les traductions de textes arabes et grecs par voies islamiques, la réflexion philosophique et la spéculation théologique se portèrent également sur la question de la nature, des modalités et du but de la connaissance, et par conséquent sur les caractéristiques et le potentiel de l'intellection humaine. Grâce à la redécouverte des textes anciens transmis par de nouveaux interprètes, se ranimait un débat qui avait été très vif dans l'Antiquité classique, ayant trait à la composante pneumatique du monde animé. Par conséquent, l'idéal de cette forme de connaissance-sagesse, qui avait jadis été appelée gnose, connaissait une réviviscence. Entrons donc dans les replis de l'âme en quête de son double pneumatique, et écoutons la voix de ceux qui, parmi les hommes du Moyen-Âge, en dépit de toutes les difficultés, réussirent à laisser un témoignage de leur quête. Et là, encore une fois, vous voyez comment les poètes et les peintres dont je vais vous parler sont vraiment très proches de l'esprit que nous a été montré être celui de Attar. Intra igitur ad te et vide, exhortez Bonaventure, Saint Bonaventure, en traçant le parcours censé conduire l'esprit à l'union mystique avec Dieu. Entre donc en toi-même et vois avec quelle ferveur ton âme s'aime elle-même. Mais pourrait-elle s'aimer sans se connaître et se connaître sans se souvenir de soi? Car l'intelligence ne saisit que ce qui est présent à la mémoire. Posée en termes de réminiscence, la question de la nature et du potentiel de l'intellection humaine au moment de la transition vers l'union mystique risquait pourtant de prendre des tons tout aussi augustiniens que dangereusement gnostico-platoniciens. Il existait d'autres manières, non moins hétérodoxes, il est vrai, de moduler l'accès de l'esprit à un niveau de conscience plus vaste que l'ordinaire. Ces manières autres étaient celles de la gnose hermétique et alchimique, qui partage avec la mystique chrétienne, juive et islamique, ainsi qu'avec les voies tantriques indo-tibétaines, quelque chose de foncièrement différent du concept d'épistrophée, conçu comme réminiscence au retour de l'âme à sa condition primordiale. Ce quelque chose est en rapport avec la disponibilité foncière de l'intelligence individuelle, en sanskrit manas, esprit spéculatif, qui s'actualise selon la façon dont chaque individu se rapporte au principe de la conscience pure, universelle ou conscience de tréfonds. Manas, explique Lama Govinda, is that which either binds us to the world of the senses or which liberates us from it. It is the base metal of the alchemist, which through magic power, siddhi, is turned into gold. The real siddhi consists in inner conversion, in the turning about in the deepest seat of consciousness, asraya paravriti. It is the only miracle which the Buddha recognized as such, and besides which all other siddhis are mere playthings. C'est bien ceci l'intelligence, la gnose rédemptrice, qui conduit à l'humanisation du divin ainsi qu'à la divinisation de l'humain. Non pas retour comme réminiscence donc, mais plutôt retournement ou renversement, paravriti, réalisation, achèvement de l'œuvre de la nature dans le domaine de la manifestation au moyen d'une accélération de son mode opérationnel réalisé de façon sapientielle. Les techniques alchimiques mises en œuvre à l'autre extrémité du continent eurasiatique se fondent sur une même reconnaissance des correspondances entre les métaux et les composés, le composé psychophysique humain, ce dont Jung, par exemple, était parfaitement conscient. Comme le dit Mircea Eliade, toutes ces techniques présupposent une série de projections, d'intériorisation et d'homologation permettant aux différents niveaux du réel de se convertir les uns dans les autres. Dans le milieu islamique, l'œuvre alchimique méditée ou la méditation œuvrant de façon alchimique sont également appelées miroirs des sages, car, comme l'affirme le Cheikh Ahmad cité par Henri Corbin, dans ce miroir, les sages contemplent toutes les choses de ce monde, qu'il s'agisse d'une réalité concrète ou d'une réalité mentale. Et vous voyez qu'entre les deux, il n'y a vraiment pas de distinction, et c'est ce qu'on verra plus tard. Puisqu'elles sont également constituées à partir de la même énergie spirituelle de lumière. Pour que l'esprit puisse se poser comme centre de la conscience psychophysique humaine, il faut donc que la faculté intellective, manas, s'ouvre à la communication avec tout ce qui n'est pas le système autoréférentiel de la conscience égotique. Mais étant donné que, comme l'a dit Aristote, nihil potest homo intelligere sine phantasmata, il s'ensuit que l'esprit humain doit pouvoir se rapporter de façon imaginale au noumena tout aussi bien qu'au phénomena, c'est-à-dire au moyen de formes mentales douées uniquement d'un corps subtil. Il faut donc que l'esprit qui a désappris à se rapporter de manière imaginale aux invisibilia réapprenne cet art. Le rosaire des philosophes affirme que voir selon nature correspond à un imaginé régénérateur qui diffère tout autant de la vision fantastique comme du regard que les sens portent sur le monde externe. On accède à cette vision qu'en fermant hermétiquement sa porte de l'intérieur dans le but d'accomplir l'ashraya paravriti, le retournement de la conscience au plus profond d'elle-même. Mais comment distinguer dans les faits entre vision fantastique et imagination vraie, entre les images qui délivrent et celles qui emprisonnent, étant donné qu'elles se déplacent toutes dans l'esprit? Faut-il vraiment les considérer comme des projections mentales, un phénomène psychique dont les êtres humains n'auraient eu pendant très longtemps qu'une vague conscience, comme l'a supposé à un certain moment Jung en se penchant sur le rapport qu'entretenaient au Moyen-Âge les alchimistes avec leur matière? Pour mieux cerner le rapport de l'esprit du Moyen-Âge avec la dimension imaginale, au sens bien entendu corbinien du mot, tel qu'il se présentait en Europe parmi les héritiers du magistère d'Albert le Grand, nous aborderons l'œuvre de Dante Alighieri, qui ne fut ni théologien, ni philosophe, ni mystique, ni alchimique, ni alchimiste, mais, comme Attard, il fut poète. À aide de la dimension ésotérique de la connaissance, qu'il conçut comme expérience visionnaire et transformative de la condition humaine, se vouant à l'énoncer comme telle dans chacune de ses œuvres. C'est Dante lui-même qui nous le dit dans la comédie. Il nous le dit en disant quel est le statut des images qu'il conçut de façon visionnaire d'abord pour les recréer par la suite en poésie. Il le fait en inscrivant son commentaire dans le corps même du texte. Voyons comment. Au bout d'un long voyage sous la conduite de Virgile, comportant la descente du cône infernal et la remontée de la montagne du purgatoire, Dante accède au paradis terrestre, où il retrouve aussitôt Béatrice, la glorieuse dame de sa pensée, comme il l'avait nommée dans la Vita Nuova, celle qui depuis les années d'enfance avait scellé à jamais son existence. Aussitôt, Béatrice lui impose de reconsidérer son passé récent, sur la base d'un seul chef d'accusation. Depuis sa mort, dit-elle, questi si tolse a me e diessi altrui, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false che nulla promission rendono intera. La question du salut ou de la perte de l'âme se pose donc pour Béatrice en termes très précis. Tout dépend des images de bien que la conscience choisit de suivre, car tout dans la vie est image et rien d'autre qu'image. Entre la vision intérieure et les manifestations extérieures de corps sensibles, il n'y a pour la conscience qui les enregistre que des différences apparentes. C'est bien ceci que Dante doit réapprendre à voir au cours de son voyage dans l'au-delà. Dans l'au-delà de ce qui est invisible aux yeux du corps, mais qui devient manifeste aux yeux de l'esprit lorsque celui-ci se rend capable de percevoir les visions incorporelles qu'engendre la dimension subtile de la psyché. Le voyage du Viator, du pèlerin, l'alter ego de Dante, bien entendu de Dante auteur, dans les règnes de l'au-delà, a donc pour but de rectifier le rapport psychique que Dante entretient avec les images de bien, quelles qu'elles soient. En évoquant les images de bien fausses, comme les reflets fantasques du fourvoiement de son fidèle, Béatrice postule en effet aussi, quoique de façon implicite, l'existence d'images de bien véritables, qui à l'encontre des fausses, savent remplir toutes leurs promesses et remettre ainsi l'âme sur le droit chemin. Comme nous le verrons sous peu, la distinction entre images de bien vraies et fausses ne dépend pas des images en tant que telles, mais plutôt de la capacité de l'adepte à activer dans son corps intérieur la faculté visionnaire, ce qui n'implique pas la répression de l'activité onirique ou imaginative, mais plutôt sa rectification. Afin de montrer la complexité des rapports que la psyché humaine établit avec les images de bien qui lui apparaissent, et pour conférer un plus grand éclat à celle diurne que son récit met en scène, Dante, auteur, nous confie aussi les rêves de son pèlerin, pendant chacune des trois nuits que celui-ci passe sur la montagne du purgatoire. C'est dans ces rêves que Dante inscrit le côté autrement invisible de la réalité évoquée par le poème. Et c'est donc le parcours de l'inconscient du pèlerin que Dante, auteur, cerne en faisant appel à son activité onirique. Inséparable du côté conscient, celle-ci ne lui est aucunement superposable. Ce sont en effet les rêves du pèlerin qui nous montrent comment la matière première de son être réagit aux opérations mises en œuvre par les puissances célestes sur sa personne afin d'en solliciter la réponse et en produire la rectification. Ces expressions oniriques, Virgile les traite avec le même soin attentif qu'il accorde aux manifestations conscientes de la psyché de son disciple. Les rêves du pèlerin sont donc le miroir où se reflète la pleine conscience que Dante eut des dynamiques de projection, d'introjection ou de homologation, suivant lesquelles l'être humain répond au processus d'initiation. Nous allons voir que les dynamiques psychiques évoquées ainsi par Dante suivent de près les phases du grand œuvre alchimique. Le premier rêve transpose oniriquement l'intervention transcendante qui a permis aux pèlerins d'accéder à la porte du purgatoire véritable. Comme le lui explique Virgile au réveil, c'est Sainte Lucie qui a transporté le dormeur au-delà de l'infranchissable falaise. Toutefois, cette heureuse circonstance a pris dans l'inconscient du pèlerin la forme d'un cauchemar d'inspiration mythologique. Comme autrefois Ganymède, Dante s'est vu emporté par une aigle au féminin, et dans l'étreinte de ses serres, la montée lui a paru un épouvantable embrasement. Poi me parea che poi rotata un poco terribile come folgor discendesse e me rapisse suso infino al fuoco. Ivi parea che ella e io ardesse e sì lo incendio immaginato cosse che convenne che il sonno si rompesse. Au-delà de toutes les interprétations morales ou allégoriques que l'on peut donner de ce rêve, sa dimension anagogique est manifeste. La matière, encore endormie, que l'aigle Lucie élève par voie mercurielle, est bien le composé psychophysique du pèlerin qui, ayant passé par la dissolution infernale, la nigredo, est parvenu, avec l'ascension du purgatoire, à la phase de la sublimation, c'est-à-dire à l'opération qui doit rendre le corps spirituel et le fixe volatile. Toutefois, la façon radicalement négative dont la faculté imageante du pèlerin se représente l'événement montre aussi que son inconscient, loin d'avoir mené à bien le processus amorcé par la descente infernale, s'identifie encore essentiellement avec le moi psychophysique qui craint l'anabase et qui donc, dans ses projections fantastiques, méconnaît le rapport profond qui lie la psyché individuelle à l'intelligence active, à l'esprit cosmique où sont rangés les archétypes des choses. Et même si l'esprit du pèlerin commence à les percevoir de façon symbolique au niveau de la conscience onirique, il les perçoit comme menaçant l'intégrité de son moi. Afin que le pèlerin puisse avancer sur son chemin, de nombreuses morts initiatiques sont encore nécessaires, et à l'état onirique aussi bien qu'à l'état de veille. Différents feux doivent intervenir. Au début du chant 19, la voix de Dante raconte à la troisième personne le deuxième rêve du pèlerin. L'apparition rebutante d'une garce bègue est instantanément métamorphosée par la faculté imaginative du rêveur en l'image d'une douce sirène. À la fois incantatrice et objet de désir, elle envoûte par ses charmes tous ceux qui s'abîment dans sa contemplation. Dans le rêve, Dante est sauvé par l'intervention d'une donna santa e presta, ainsi que de Virgile, qui, gli occhi fitti pur in quella onesta, fend les vêtements de la séductrice et en expose le ventre fétide. Le relent imaginé réveille le dormeur, qui reste attaché à ses fantasmes intérieurs jusqu'à ce que Virgile ne l'en tire, en l'incitant à un renversement de perspective. Plutôt que de répondre de façon instinctive à l'appel du sauvage qui encore l'habite dans la forme de la sirène séductrice, c'est l'appel du divin qu'il doit apprendre à reconnaître, en arrêtant ses regards, comme l'a fait Virgile, sur l'autre image de bien onirique, c'est-à-dire la dame sainte qui a surgi dans le rêve, et par conséquent sur les grands rouages cosmiques. C'est donc le retournement radical du principe psychique, cet ashraya paravriti, qui doit se produire dans les chants du milieu du poème, et le deuxième rêve du pèlerin marque le commencement de ce processus au niveau inconscient, sous la forme d'une nouvelle mort initiatique. Mais l'intervention de Virgile dans le rêve introduit aussi un autre niveau de corrélation entre image onirique et réalité de veille. Le geste net avec lequel celui-ci tranche les séductions de l'ancienne sorcière, tout en arrêtant son regard dans les yeux de la dame sainte, révèle l'écart diabolique qui sépare la forme séductrice de la sirène de son inexistante substance. Le geste qu'accomplit Virgile est donc libérateur et initiatique à la fois, et c'est ce geste que le pèlerin est appelé à intérioriser. Vedesti disse quell'antica strega che sola sovranoio mai si piagne. Vedesti come l'uomo da lei si slega. Que l'on ne se méprenne sur la signification de ce geste. La garce bègue et la sirène sont l'une et l'autre des images de bien onirique, c'est-à-dire des lueurs d'aversion ou de désir que la conscience ourdit autour d'elle-même en leur attribuant une épaisseur ontologique jusqu'au point de devenir prisonnière de ses propres projections. En lacérant le voile de Maya, la pensée qui se tourne vers son fondement archétypique apprend à reconnaître dans l'activité imaginale le jeu universel d'actualisation de l'esprit dont elle n'est que le reflet, jeu dans le jeu. Voici le renversement de perspective qui doit advenir au centre de la comédie. C'est bien la véritable ouverture qui permettra aux pèlerins de parvenir à la contemplation des grands rouages universels. Avant d'en arriver à la rencontre des avec les images de bien céleste, le pèlerin en est encore toutefois à gravir les trois derniers girons du purgatoire pour surmonter enfin l'épreuve du mur de feu. Feu transmutatif, baptismal, initiatique, au-delà duquel l'attendent les premières hypostases du monde archétypal. Toutefois, jusqu'au bout, Dante craint ce feu, tout comme il en avait eu horreur dans son premier songe. Ce ne sera qu'au nom de Béatrice et par les soins dévoués de Virgile qu'il sortira victorieux de cette épreuve ultime, qui le laisse, à la sortie, purifié, prêt à recevoir le double couronnement hermétique que Virgile lui confère au matin suivant. Le rêve qui prend forme dans la pause nocturne entre la fin de l'ascension du purgatoire et l'entrée au paradis terrestre se présente dans l'esprit d'un être humain ayant ainsi retrouvé son androgynie primordiale. Les polarités masculines et féminines de son âme ont été réunies et réconciliées et sont donc prêtes à accueillir et à refléter le rayon vivifiant de l'esprit. Étendu sur un lit de pierre, ruminant et mirant le ciel étoilé, lui-même devenu et pierre et étoile, le pèlerin glisse dans son troisième rêve, par rapport auquel Virgile n'a plus aucune raison d'intervenir, puisque ces images oniriques ne s'opposent aucunement aux images de bien véritables que le voyage dans l'au-delà avait pour but de rendre manifestes. Tout comme le précédent, ce troisième songe met en scène deux personnages féminins dont les comportements paraissent antithétiques. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, dit Lia, qui cueille des fleurs en chantant. Ma mia suora Raquel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto il giorno. E lei dei suoi begli occhi veder vaga com'io dell'adornarmi con le mani. Lei lo vedere e me l'ovrare appaga. Loin de s'opposer dans un dualisme conflictuel, le miré de Rachel et l'œuvré de Lia révèlent plutôt une harmonieuse dualitude. Les deux sœurs représentent les deux faces inséparables de l'âme dans sa configuration hermétique. Dans leur dimension archétypale, elles sont toutes les deux des images de bien à part entière, dans lesquelles la psyché du pèlerin peut se refléter librement. Au cours de la montée du purgatoire, le pèlerin se fait donc progressivement capable d'accueillir et de réfléchir les projections émanant de la supraconscience. L'admission de Dante au paradis terrestre est à comprendre surtout comme entrée dans le monde imaginal, c'est-à-dire dans la dimension subtile des corps spiritualisés et des esprits corporalisés. Il est à remarquer que Virgile, le guide de Dante, en raison du caractère visionnaire et prophétique de son œuvre, participe pleinement de la dimension imaginale à partir de laquelle seulement il devient possible d'entreprendre l'œuvre au rouge, d'apprendre à extraire la manifestation lumineuse du feu mercuriel intérieur. C'est Matilda qui l'assure en déclarant Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse infarnaso, esto loco sognaro. En tant que corollaire offert par grâce, cette conclusion du discours de Matilda se pose comme le quatrième rêve de la comédie. Dante nous montre ainsi la modalité à la fois onirique et poétique, et partant proprement imaginale, par laquelle le langage humain réussit à véhiculer l'intuition ineffable de la nature primordiale de l'existence. C'est le corollaire énoncé par Matilda qui conduit Virgile au sourire. Le témoignage de Dante nous le montre enfin heureux. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto. En se reconnaissant dans la vérité eschatologique de son rêve poétique, Virgile arrive à cerner la mesure de son salut. Comme l'avait annoncé Lia dans le troisième rêve du pèlerin, le salut s'actualise en effet non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur et en procédant vers l'intérieur. Car toute connaissance véritable se produit par voie spéculaire, comme c'est le cas pour la vision lumineuse de Rachel. Pour accéder à la partie céleste de son voyage, Dante doit donc s'élever à la réalisation de cette forme de vision imaginale. C'est dans la dynamique de la vision spéculaire de Rachel qu'il nous faut partant plonger le regard maintenant pour mieux comprendre la nature de la vista nova qui va sceller le voyage de Dante dans l'au-delà. Afin d'introduire son fidèle à la dimension extatique de la vision contemplative, Béatrice lui révèle le mystère du perfetto vedere, du voir parfait, qui se déploie comme connaissance absolue, foncièrement non-dualiste. Il s'agit d'un fiammeggiare nel caldo d'amore, un flamboyer dans le chaud d'amour, dont Béatrice et tous les bienheureux participent pleinement, alors que Dante ne fait que s'en approcher. Pour arriver à trasumanare, outrepasser l'humain pleinement, il faut donc qu'il apprenne lui aussi à voir, réfléchi au centre de son être, la redoutable flamme de la connaissance adamantine dont il avait fait l'expérience dans son premier rêve et l'épreuve lors de la traversée du mur de feu. Douée de vue céleste, Béatrice déclare à son fidèle comment sa vue à lui participe elle aussi de la même origine lumineuse dont participe la vue des bienheureux. Tandis que la vision fausse découle de la poursuite d'un dualisme séparatif entre sujet et objet, voyant et vu, qui dénature la recherche du salut et des moyens d'y parvenir, la connaissance véritable parvient à réaliser l'ipséité d'une vision qui se reconnaît comme spéculaire, c'est-à-dire comme unitive et universelle. C'est là la façon de connaître propre aux bienheureux. Leur capacité à lire dans la pensée de Dante ou à voir la réalité des choses présentes ou à venir dépend du fait que, s'étant rendu miroir, ils voient ainsi ce qui leur resterait autrement inaccessible, c'est-à-dire la dimension pneumatique de l'univers telle qu'elle se manifeste dans le devenir universel. Cacciaguida avait déjà mentionné à son arrière-petit-fils Dante cette caractéristique du voir parfait. Mais c'est la flamme d'Adam qui explicitera la nature particulière de cette vision qui instantanément se fait nos, la lumière appelant vers soi des ténèbres, la lumière. Sans essermi proferta da te la voglia tua, discerno meglio che tu qualunque cosa te più certa, perch'io la veggio nel verace speglio che fa di sé pareglio all'altre cose e nulla face lui di sé. Pareglio. Tout dans les cieux est miroir où se reflètent des figures, les âmes, les anges, les cieux, Dieu lui-même. C'est donc en miroir que Dante pèlerin doit apprendre à convertir son propre regard afin d'y contempler la vastitude spéculaire de l'univers appréhendé dans sa dimension mandalique. Ficca diretro agli occhi tuoi la mente e fa di quelli specchi alla figura che in questo specchio ti sarà parvente. Lui enjoint Béatrice au moment où, à l'orée du ciel de Saturne, il va voir apparaître l'échelle céleste, image archétypale de la montée sapientielle. Cette conversion du regard se produit dans chacune des sphères célestes que le pèlerin traverse, de la lune jusqu'à l'Empyrée, ainsi que de la série d'aveuglements et d'illuminations successifs qui affinent l'orifaction progressive de ses facultés psychophysiques. C'est ainsi que Dante acquiert une conscience de plus en plus claire et vaste du fait que toute sa vision, depuis l'apparition de Virgile à l'orée de l'enfer jusqu'à l'indicible vue de la rose céleste et de l'alto lume du haut luminaire qui la vivifie, est une révélation ad personam qui en tant que telle se transmute continuellement en elle-même. Quand finalement Dante obtiendra par intercession de la Vierge la Visio Dei, la vision béatifique, celle-ci aussi se manifestera comme image de bien suprême qui se révèle dans le mystère de la réunion de voyants, vues et visions. Encore une fois, comme vous voyez, on est très proche de Attar. Quella circulation che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta, dentro da sé del suo colore stesso, mi parve finta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Tal era io a quella vista nova. C'est exactement comme les 30 oiseaux si mordent. Jusqu'au bout, la vista de Dante reste une théophanie consciemment imaginale. La lumière éternelle apparaît à ses yeux, m'apparut, non pas en tant que telle, mais comme lustre réfléchi. Si bien que Dante aussi aurait pu dire, avec l'apôtre Pierre, « Talem eum vidi, qualem capere potui ». Mais ce n'est pas tout. La Visio Dei qui scelle le poème dans son ensemble se pose aussi comme le cinquième et dernier des rêves qui adviennent à la conscience du poète. La consistance de cette ineffable vision est en effet réfléchie comme l'est celle des rêves, mais avec une différence essentielle. Le cœur qui l'accueille est enfin devenu capable d'en savourer l'essence en la distillant. C'est l'accomplissement de cette transmutation de la conscience individuelle en conscience cosmique qui fait de Dante un homo totus, un délivré de son vivant, un jivan mukta, devenu capable de reconnaître dans le visage du Christ la dimension réfléchie de sa propre ipséité la plus intime et la plus secrète. Dans le vaste entrepôt de la mémoire picturale d'Europe, il est une image qui, plus que tout autre, déploie à mon sens la réalité imaginale de la Vista Nova de Dante. Il s'agit d'un autoportrait peint exactement 2 siècles après le moment auquel Dante avait symboliquement daté son voyage, entrepris, comme l'on sait, au début de l'an 1300, en correspondance avec Pâques et l'équinoxe, et nel mezzo del cammin di nostra vita, puisqu'en 1300, Dante avait exactement 35 ans. Or, le peintre qui, en l'an 1500, avait eu l'aplomb de surimposer ses propres traits à la sainte face ou vera eikon du Christ, ne pouvait évidemment pas savoir qu'il avait accompli cet extraordinaire acte de reconnaissance métaphysique dans l'exact milieu du chemin de sa vie. Albert Dürer avait en effet déclaré sur le front même du tableau s'être représenté par ce portrait dans sa propre ipséité à l'âge de 28 ans. Or, il aurait rendu l'âme 28 ans plus tard exactement, le 6 avril 1528. En revanche, Dürer ne pouvait pas ignorer d'avoir ainsi eu l'audace, comme déjà Dante 2 siècles avant lui, de ficcar lo viso per la luce eterna, au point d'arriver à joindre hermétiquement l'aspetto suo col valore infinito. Ce que j'entends souligner par là, c'est la dynamique commune à ces deux formes d'union mystique, qui fait que l'expression vista nova que Dante utilise pour sceller sa propre visio dei convient tout aussi bien à la vision de Dürer. Dans les deux cas, l'immanence absolue du moi le plus intimement connu devient la mesure la plus apte à translater l'incommensurable transcendance du soi le plus inaccessible. La dépouille mortelle de l'auteur occulte et révèle à la fois, comme le voile de Maya, tout le mystère de cette identité réfléchie, de cette ipséité, de cette épiphanie. Comme l'a très finement et tout récemment remarqué Françoise Bonnardel, est-il aspect plus digne d'attention de la part d'un peintre que l'image réfléchie de soi dans un miroir eût surprendre le secret de son rapport intime à soi-même, indissociable de celui entretenu avec le monde et avec Dieu? Et pourtant, dans cet autoportrait, il n'y a aucun détail immédiatement visible qui trahisse l'artifice de ce qui forcément dut être une technique en miroir. Contrairement à ce que l'on voit dans d'autres autoportraits, Dürer a réuni sujet, objet et instrument de sa représentation dans une unité qui se veut directe et absolue. Mais est-ce bien Dürer lui-même qui nous dévisage des profondeurs de cette table peinte? Regardons-y de plus près. Celui qui se montre à nous n'est pas Dürer lui-même, mais son image en reflet. Nous sommes donc en présence de l'autre Dürer, d'un son injoignable ange, qui ne se donne à voir qu'au moment où la conscience devenue Rachel entre en contact avec la dimension imaginale de l'être. Voici qu'en contemplant l'invisible soi que Dürer est parvenu à manifester dans son double spéculaire, c'est tout aussi bien notre propre double que nous sommes conviés à approcher de vue nouvelle, per speculum in enigmate. Plusieurs conséquences herméneutiques découlent du fait que cet autoportrait supprime toute référence au reflet comme donnée métadiscursive. Voyons-en quelques-unes. Le visage et le regard de Dürer, ou plutôt, comme nous venons de le dire, de son double angélique, s'inscrivent dans les traits que traditionnellement l'Occident attribue à la sainte face du Christ. Sainte dans le sens de détachée du monde dans son aspect profane, comme l'est la face de toute icône à Kairopoieta. Par conséquent, c'est au portrait de Dürer est ressenti comme blasphématoire lorsque son observateur estime qu'il dépasse les bornes établies par l'Église dans le but de déclarer de scinder le divin de l'humain. Et pourtant, une connaissance même de novice des pratiques de méditation orientale conduit à reconnaître dans ce regard grand ouvert sur l'infini et dans cet abandon vigilant de tous les membres, l'état psychophysique du samadhi, atteint précisément par ceux qui ont voué leur existence à habiter cet espace, le seuil, le barzak, qui du rapport entre le divin et l'humain veut être non pas la séparation, mais plutôt la communion. Si on l'envisage sous cet angle, l'autoportrait de Dürer nous apparaît alors comme l'image d'un chrétien qui en vient à rassembler de plus en plus au Christ au fur et à mesure que sa participation à l'extase mystique se fait grandissante. En abandonnant les horizons du moi, sa conscience se fusionne de plus en plus étroitement avec son ipséité transcendante qui se manifeste dans sa face humaine, oui, mais en miroir. Abordons un deuxième point. La stase pacifiée de cet être de mystère s'accorde avec un seul signe de mouvement. Le geste par lequel les doigts de Dürer semblent retenir le rebord redoublé de fourrure du riche manteau dont il est paré. Comment lire ce geste? Recèle-t-il d'une portée au moins en partie symbolique? Il n'y est bien entendu pas question d'y voir quoi que ce soit de sacrilège. Seul un regard profane pourrait confondre la position de ses doigts avec le signe de la bénédiction qui n'appartient qu'au Sauveur. Mais aux yeux de qui, encore une fois, serait quelque peu familier des rituels de la méditation orientale, ce mouvement de la main qui se fige à la hauteur du cœur apparaît plutôt comme un mudra, un geste tout à fait humain, mais dont la portée se veut symbolique. Que veut donc communiquer cette main ? Que nous voyons se retourner sur son propre axe et former avec la disposition en calice de ses doigts l'image d'un mince vase dont l'ouverture pointe discrètement en direction du cœur. Encore une fois, regardons-y de plus près. La main qui dans le tableau apparaît comme la droite de l'artiste la main qui, comme l'affirme un peu trop vite Körner, should be busy fashioning the panel we see before us, est en fait la main gauche de Dürer, qui dans le tableau apparaît inversée en miroir. Sa main droite, celle qui a façonné le portrait, repose tranquille juste au-dessous de la marge inférieure du panneau, où se trouvent aussi, invisibles à nos yeux, les instruments, miroirs, palettes, couleurs, pinceaux, qui ont permis à Dürer d'opérer son alchimie picturale. Ce n'est donc pas la main active de Dürer que nous voyons retourner sur son axe, c'est sa main contemplative. C'est la main droite de son double angélique, c'est la main du cœur, non pas celle de la volonté. Si la main de la volonté peint, nous dit ce geste, elle le fait en obéissant aux directives de l'autre main, celle qui silencieusement puise aux sources sapientielles du voir, comme du montrer. Le retournement qui a rendu possible cet autoportrait, c'est, tel que nous le voyons, nous dit ce mudra, est une conversion, un ashraya paravritri, qui advient in interiore omine, et qui de là se manifeste à travers le regard sur le visage et le portement tout entier, car l'esprit informe de soi la face comme la personne. Ce geste de la main est donc accompli par un être dont l'aspect physique révèle, sans crainte d'irrévérence, l'esprit immortel qui l'anime. Du Christ lui-même, il parle silencieusement le langage. Comment alors ne pas associer ce geste de la main de Dürer avec le passage de l'évangile de Luc où Jésus, interrogé par les pharisiens sur l'avènement du règne de Dieu, répond « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Comme on le sait, la traduction en latin du grec « entos » par « intra » plutôt que par « intus » découle d'une lecture volontairement exotérique des paroles de Jésus visant à identifier le règne de Dieu avec la personne du Christ. Mais l'évangile gnostique de Thomas avait opté pour une lecture radicalement ésotérique de « entos » qui en explicite la portée. Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. » Dès l'époque des Pères de l'Église, la question de l'imago Dei et du lieu où elle est censée se refléter dans l'être humain avait occupé une place capitale dans la spéculation théologique. Si le Christ est l'imago Dei, telle qu'elle s'est incarnée et révélée dans l'histoire, quel rapport cet événement entretient-il avec l'imago Dei, enchâssée dans tout être humain? Veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova. N'avait pas craint d'avouer Dante, plongé comme il l'était dans la contemplation de son extraordinaire vista nova, vision nouvelle. Deux siècles plus tard, dans la nuit des temps où la chrétienté devait s'effriter contre la pierre de sa propre prétendue angularité, Dürer, tout aussi bien que Dante et que les mystiques et les alchimistes du Moyen-Âge, tel le géomètre qui tutto s'affige, qui tout entier se fige dans les mystères de son art, avait retrouvé quel principio onde gli indige, le principe qui lui avait fait défaut, non pas dans le mirage d'un intranos à jamais dévolu, mais dans le miracle au quotidien d'un intus nos, qui seul peut conduire à l'ipséité du soi. En contemplant l'image qui se dessine dans le miroir du cœur, Dante et Dürer parviennent tous les deux, chacun suivant sa propre voie, à la réalisation mystique du fait que ce qui se montre dans l'image en miroir de leur propre viso, visage et vision ici deviennent tout un, est en fait le mystère qui fait que l'image de leur dépouille mortelle, le moi, la pierre morte, apparaît conjointe avec l'esprit qui l'anime, le Christ, la pierre vive, en la transmuant. C'est bien cela, comme l'aurait dit Béatrice, l'image de bien suprême, l'image archétypale qui seule peut rendre toute promission entière. Si maintenant nous aussi nous nous retournons tout en arrière, indietro tutti, comme Dante l'avait fait en présence de Matilda, si nous parvenons à opérer cette transmutation du regard qui fait des morts que nous sommes des délivrés de leurs vivants, nous verrons que non seulement Virgile et Stas, mais avec eux Dante et Dürer, ont eux aussi, à l'orée du paradis terrestre, joyeusement ouï ce tout dernier propos. Je vous remercie.
Daniela, un grand merci pour cet exposé qui est très riche, qui nous a rappelé que la mystique est une transformation continuelle et qu'on a bien un peu de prise pour elle et qui a élargi les connexions du discours au-delà même de Dante qui est suffisamment riche à bien d'autres domaines. Voilà, nous avons le temps pour poser des questions à Daniela qui est c'est sans doute plus rare qu'elle enseigne au Canada et que donc c'est une faveur exceptionnelle qu'elle nous fait donner.
Merci.
Oui.
Moi, je voudrais savoir si historiquement, Dürer était un lecteur.
C'est difficile à prouver. Il a voyagé d'Italie, peut-être. Mais. C'est pas sur la base d'une lecture qu'on peut établir ce rapport.
Oui, bonsoir.
Je me permets juste d'ajouter cette question qu'il n'y a absolument aucune trace, aucune preuve d'un quelconque intérêt de Dürer pour Dante, mais on peut imaginer, en tout cas, que, en raison de sa familiarité avec le cercle des humanistes de Nuremberg, et en particulier par l'intermédiaire de son très très proche ami Willibald Pirkheimer, il ait pu effectivement être au contact de certains textes italiens, non seulement italiens d'ailleurs, mais peut-être, mais c'est une pure supposition.
Mais personnellement, je crois qu'il ne faut vraiment résister à la tentation de lire dans cela un rapport textuel. C'est pas du tout ça ce que j'ai voulu faire. Voilà. Tout aussi comme j'ai fait des références à Attard, et en fait j'ai écrit un article sur Dante et Attard. Parce que leurs œuvres, à mon avis, se reflètent en quelque sorte l'une dans l'autre, mais il est bien entendu impossible que Dante ait connu Attard. Et pourtant, il y a des dynamiques qui se répètent.
Une petite question latérale sur Dante et l'alchimie. J'avais dit des choses qui ne paraissaient pas toujours très sérieuses sur ce qu'on a dit. Est-ce que Dante avait des connaissances
Là aussi, c'est difficile. Je crois qu'on retrouve des parallèles et dire qu'il pouvait ne rien connaître serait tout à fait excessif. Il a pourtant organisé le voyage de son pèlerin, de son moi, de façon à ce que se produise une transmutation. Il faut qu'il y ait quand même quelques formes de connaissances très profondes, à mon avis, de la chimie, même si ce n'est pas après. Explicité, ce n'est... Oui, la comédie n'est pas un traité de la chimie, bien entendu.
Oui, encore une question.
C'est un point de détail. La mise en regard de l'autoportrait de Dürer et du Christ de Vanek est-ce que c'est votre choix pertinent ou est-ce qu'il y a dans Dürer, dans les notes, qu'il a laissé l'indication qu'il a consciemment voulu reprendre les traits du Christ en faisant son autoportrait?
Que je sache, il n'y a pas de notes à ce sujet, mais je pense que toute ma lecture est basée sur le fait qu'il y a une conscience très précise de ce geste. Ce n'est pas par hasard.
Donc le choix est le vôtre. Et il est très pertinent.
Oui, madame.
Oui, est-ce que Dante, par exemple, il rencontrait des Chinois ou des Japonais, il rencontrait cette connaissance des choses ou c'est, enfin, je sais pas.
Non, évidemment, non. Mais là encore une fois, puisque le thème de la journée était la mystique, ce que je me proposais de montrer était la manière dont on retrouve une approche qu'on peut reconnaître d'une tradition à l'autre. Donc, précisément dans la mesure où la mystique atteint l'ineffable, c'est dans cette ineffabilité que les différentes traditions se reflètent les unes dans les autres et se reconnaissent et se parlent. Donc, c'est le langage du silence que j'essayais de dégager.
Oui, ça revient à ça, c'est par rapport à la question. Je dis, en fait, c'est parce qu'il y a des codes culturels dans lesquels, évidemment, on donne forme à ces intuitions. Mais il semble évidemment que les intuitions, et c'est assez rassurant de se dire que les intuitions sont un peu les mêmes partout, ça nous encourage à penser qu'il y a peut-être quand même quelque chose, je dirais, pas de la vérité parce que je n'oserais pas, mais en tout cas du réel qui se déploie et du rapport au réel des humains. Et que les codes soient différents, c'est évident.
Et c'est là, comme vous le disiez aussi, où le langage s'arrête, où vient mourir au rivage de cette vérité ou de cette réalité qui, en tant que telle, se reflète dans tous ces miroirs, ces infinis miroirs, mais pourtant, la réflexion est toujours le double. Donc, c'est le même et l'autre.
Et vous l'avez très bien expliqué, en fait, l'image est toujours, correspond toujours à quelque chose qui est une culture donnée, quand même. C'est comme ça que, c'est pour ça qu'effectivement, quand on voit le portrait de Dürer, toute personne qui a vu les portraits du Christ ne peut pas s'empêcher de penser, mais parce que c'est un code qui est donné.
Oui, il y avait encore une question.
Oui, c'était, je voudrais vous revenir un petit peu sur l'apparent paradoxe qu'il pourrait y avoir à tout simplement se trouver face à des images de bien fausses. Et il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué dans votre explication, mais quelque chose que j'ai noté quelque part. C'était un paradoxe. Je vais donner plus.
Mais Béatrice accuse Dante d'avoir suivi des images de bien fausses, en se détournant de la contemplation spirituelle de son visage à elle, mais bien entendu son visage à elle, c'est un peu comme le visage du Christ, donc de cette réalité imaginale. Donc, qu'est-ce que c'est que ces images de bien fausses? Encore une fois, là, c'est ma lecture, n'est-ce pas? C'est l'image en tant que telle, c'est pas l'image en tant que telle, c'est le regard qu'on pose sur l'image. Donc, à partir du moment où on attribue à l'existant une réalité, disons, ontologique, donc on croit que c'est quelque chose qui existe en tant que tel et qu'on s'y attache, l'image devient fausse. Et le deuxième rêve de Dante le dit très très bien, c'est le rêveur, donc on est dans dans la réalité onirique et non pas dans la réalité quotidienne. Mais le regard onirique de Dante transforme l'image horrible du début de la gare dans une sirène attrayante. Et il reste complètement piégé à cette image parce qu'il en croit la réalité ontologique. Et c'est à ce moment-là que Virgile intervient sur l'ordre de Béatrice pour fendre le ventre. Donc c'est vraiment le voile de Maya, c'est vraiment ouvrir pour montrer qu'il n'y a rien au-delà. Et donc que cette l'image est fausse. Mais vous voyez bien que c'est pas l'image en tant que telle, c'est le regard qu'on pose, parce que en tant que moyen de révélation, cette image devient une image véritable. Donc, voilà, c'est plus clair? Attends, oui.
Bon, alors, je ne sais pas si il y a une dernière question.
Oui, qui est Béatrice?
Alors, Béatrice, c'est la bien-aimée de Dante. C'est... Dante l'appelle la gloriosa donna della mia mente, hein, ce qui est une définition extraordinaire, parce que Béatrice, bien entendu, apparaît à Dante, donc elle a aussi un niveau de manifestation historique dans la vie quotidienne, hein, et pourtant elle est la glorieuse dame de son esprit. Hein, la mente, c'est l'esprit. L'esprit étant, bien entendu, ce niveau où le cœur devient voyant. Et donc, Béatrice est son moi autre qui va le conduire vers la réalisation de son être le plus intime et donc de son non-être.
Vous avez le coup alors pour toute dernière question, oui.
Justement, dans l'œuvre de Corbin, quand il cite Dante, il est toujours à côté de Béatrice. Souvent, il fait un rapport avec la Sophia et Fatima.
Bien sûr. Je suis tout à fait. Je souscris entièrement. Je dis ça un peu comme ça parce que, par contre, dans le milieu des dentistes, il y a une tendance. Non, des dentistes, je m'excuse, oui, pourtant, c'est comme ça. Des spécialistes de dents. Dante en sourirait, j'en suis sûre. Il y a la tendance, n'est-ce pas, à ne considérer Béatrice que comme femme de laquelle il est tombé amoureux. Et donc on revient à l'histoire des images de bien, véritables ou fausses, dans la mesure où on estime que Béatrice n'est que un être humain mortel qui accomplit son rôle de amoureuse et d'amante, on s'empêche de voir cet autre niveau qui est celui de cette réalité autre, mais qui devient visible seulement à partir du moment où le regard peut passer au-delà de... Et donc Béatrice, bien entendu, devient Sophia, devient quelque chose d'autre.
Très bien, merci.
Alors Virgile, en attendant, c'est son premier maître.
Absolument. Et Virgile est envoyé à Dante par Béatrice. Donc Virgile est une hypostase, finalement, de Béatrice.
Bien, merci beaucoup, Daniela Boccacini, pour cet exposé tout en richesse. L'allusion à Fatima nous permettra de glisser vers l'exposé suivant.